Mireille Kanyang.
Merci pour votre fidélité, madame, monsieur. Bonsoir. Bienvenue à cette édition dont voici la charpente. Le parquet de la République de Ngozi requiert un emprisonnement ferme de 12 ans et une amende d'1 million de francs burundais à la journaliste Sandra Muhoza l'après-midi de ce vendredi. Échange de vœux du nouvel an ce vendredi entre le chef de l'État et les corps de défense et de sécurité. Le numéro 1 burundais revenu sur les relations burundo-rwandaises. Un politologue burundais estime l'atteinte d'un niveau élevé de développement du Burundi par des cadres compétents dans le secteur de l'éducation. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman.
La radio de l'avenir.
Justice d'abord, un emprisonnement ferme de 12 ans et une amende d'1 million de francs burundais. C'est la peine requise par le parquet de la République de Ngozi à l'endroit de la journaliste Sandra Muhoza du journal La Nova. C'était lors d'une audience publique de ce vendredi au tribunal de grande instance de Ngozi. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion ethnique. C'est à propos d'un message électronique qu'un groupe WhatsApp de ses collègues journalistes. Sandra Muhoza et sa défense nient les accusations, arguant que ces dernières ne constituent pas une infraction. Ses avocats demandent par conséquent sa libération. Le tribunal de grande instance de Ngozi a mis ce dossier en délibéré et sera prononcé d'ici au plus tard un mois. Une information que nous devons à notre correspondant Apollinaire Muzagara. Le chef de l'État demande au corps de défense et de sécurité de l'administration et de la population de doubler de vigilance, estimant que celui qu'il qualifie d'ennemi est à la porte du Burundi, parlant du Rwanda. Pour Évariste Ndayishimiye, ce voisin du Nord reproche au Burundi de constituer un obstacle dans son plan d'occupation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État se réjouit des prestations de différents corps au moment où la ministre de la Défense nationale et des anciens combattants remercie le chef de l'État pour l'octroi à cette institution des équipements militaires modernes. C'était ce vendredi à Gitega lors des échanges de vœux entre le chef de l'État et les corps de défense et de sécurité. Gérard Nibigira.
Dans son discours de circonstance, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a indiqué que l'ennemi est à la porte du Burundi, à savoir le voisin du Nord, le Rwanda, qui ne cesse de reprocher au Burundi de l'empêcher à occuper la République démocratique du Congo. C'est ainsi donc qu'il appelle les forces de l'ordre et de la défense, l'administration et la population en général et à doubler de vigilance, tout en rappelant que le Burundi n'est pas un pays facilement envahissable et que donc tout ennemi qui se mesurera à lui recevra une bonne leçon. Cela étant, le chef de l'État se réjouit des prestations des forces de l'ordre et de la sécurité qui œuvrent jour et nuit avec bravoure et discipline et patriotisme. Il les appelle alors d'aller toujours de l'avant et les conseille de rejeter toute personne qui tentera d'introduire au sein de ses corps des esprits divisionnistes. Ainsi, une minute de silence a été observée en mémoire des militaires burundais tués sur le champ de bataille en luttant pour la paix à l'étranger. De son côté, Marie-Chantal Nijimbere, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a vivement remercié le chef de l'État pour l'amour dont il fait preuve envers l'armée burundaise et pour l'octroi des équipements militaires modernes à son corps. Tous ces propos ont été tenus ce vendredi à Gitega lors de cérémonies organisées conjointement par l'armée et la police pour souhaiter à la famille présidentielle Joyeux Noël et meilleurs vœux du nouvel an 2026. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro.
Par l'ordre de l'homme, il existe trois solutions durables de traitement des réfugiés, notamment le rapatriement avec leur consentement, explique un expert en droit d'asile et des réfugiés qui dit que certes, un réfugié ne peut être retourné dans son pays d'origine si la cause de son exil persiste. Dr Pamphile Mhava a ainsi réagi après que la Tanzanie ait décidé de renvoyer les réfugiés burundais dans leur pays. Suivez.
C'est mentionné dans le comité exécutif de l'ACR que le but ultime de la protection internationale, c'est de mettre en œuvre des solutions durables pour les réfugiés. Et ces solutions durables qui sont préconisées, c'est d'abord le rapatriement librement consenti, rapatriement des réfugiés dans les pays d'origine. Deuxièmement, c'est la naturalisation, donc les réfugiés bénéficient de la nationalité du pays d'accueil. Et troisièmement, c'est la réinstallation. Ce sont les trois solutions durables qui sont préconisées pour les réfugiés. Mais on trouve d'ailleurs ces solutions durables, ces trois solutions durables, à l'article 127 de la loi burundaise sur l'immigration. Et aussi, l'article 8 du statut du HCR prévoit que le HCR seconde les initiatives du pouvoir public et les initiatives privées en ce qui concerne le rapatriement de biens consentis et l'intégration sur place. Il se revient aux États, l'État d'accueil et l'État d'origine, d'analyser si réellement il n'y a plus nécessité d'assurer la protection des réfugiés. Et pour le cas d'espèce, pour la Tanzanie, si la Tanzanie décide de renvoyer les réfugiés qui étaient sur leur sol de force, cela va à l'encontre de ce qui est prévu par la Convention de l'OIOA. Cette convention préconise en son article 5 que le caractère essentiellement volontaire de rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré. Mais là aussi, il y a les solutions durables, il y a les causes qui mettent fin au statut des réfugiés. Si le pays d'accueil voit que ces causes, ces conditions qui sont prévues pour qu'il y ait fin du statut des réfugiés, que ces conditions sont remplies, l'État d'accueil peut négocier avec l'État d'origine pour que ces réfugiés retournent chez eux. Sinon, ils ne peuvent pas rester dans le pays d'accueil, ils ne peuvent pas rester réfugiés éternellement, alors que la situation dans les pays d'accueil a fondamentalement changé.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
18h07 dans les studios de la radio Isanganiro. Parlons éducation à présent. Des certains responsables d'établissements scolaires de la direction provinciale de l'éducation de Burunga, c'est au sud du Burundi, demandent au gouvernement de prévoir des frais de fonctionnement suffisants dans le secteur de l'éducation afin d'assurer le bon déroulement des activités scolaires. De son côté, le directeur provincial de l'éducation à Burunga reconnaît que les moyens disponibles restent insuffisants. Cependant, il demande aux responsables scolaires de ne pas exiger de l'argent aux élèves sans en avoir préalablement expliqué l'usage à leurs parents. Un reportage signé Clovis Niyonkuru.
Une mère de la province de Burunga déplore le fait que les élèves soient régulièrement sollicités pour diverses contributions scolaires. Selon elle, il serait préférable d'instaurer des frais scolaires officiels, clairs et uniformes, plutôt que de demander de l'argent de manière répétée aux enfants.
Nos enfants nous disent souvent qu'on leur demande tantôt 2000, 1000, 5000, voire 7000 francs. Personnellement, je ne comprends pas l'usage de tous ces frais exigés. Il serait préférable de fixer un minerval officiel pour le premier, le deuxième et le troisième trimestre au lieu de réclamer de l'argent à répétition. Cette pratique peut nuire à l'amélioration de l'apprentissage de l'enfant.
Responsable d'établissement scolaire ne nie pas l'existence d'un minerval et le poste fondamental. Toutefois, face à la flambée actuelle des prix, ces ressources demeurent insuffisantes pour couvrir les besoins des écoles, explique frère André Nina Azoué, directeur du lycée Saint-Pierre de Makamba.
Je peux vous dire que avoir les besoins de l'école, c'est entre 5 et 4 millions par trimestre. Comprenez que pour une école à régime d'externat, qui n'a pas d'activité d'autofinancement très poussée, ce n'est pas mal. Il y a des consommables réguliers, ça bouffe beaucoup d'argent. À la provenance, il y a le minerval des enfants, et il y a aussi la contribution de 7 000 par enfant et par trimestre pour le poste fondamental.
De son côté, Jean Bosco Ndachaïsaba, directeur du lycée de Mabanda, confirme que ses contributions ont toujours été sollicitées auprès de parents, faute d'autres alternatives. Il reconnaît néanmoins que ces derniers suivent plus souvent dans un climat de mécontentement et de lamentation.
Le défi majeur, c'est celui qui est lié aux moyens insuffisants. Par exemple, nous avons un problème lié aux outils informatiques. Un autre problème, c'est que nous avons 12 enseignants à temps partiel qui sont payés par les parents d'élèves. À un certain moment, les parents disent qu'ils sont incapables. Ils payent ces sphères-là difficilement. En majorité, ce sont des problèmes liés aux moyens.
Elias Ndikumana, directeur provincial de l'éducation et de l'enseignement à Burunga, admet également l'insuffisance des moyens financiers alloués au secteur. Il appelle les responsables scolaires à faire preuve de transparence en expliquant clairement aux parents avant tout collecter l'utilisation des fonds mobilisés.
Nous constatons tous que les frais de fonctionnement des établissements scolaires sont insuffisants. Toutefois, chaque école dispose d'un comité de gestion. Le problème se pose lorsque les responsables scolaires ne respectent pas les normes de collecte de ces contributions. En principe, une réunion devrait être organisée avec les parents afin de leur expliquer clairement l'utilisation de ces fonds. Lorsque certains responsables agissent contrairement aux accords conclus avec les parents, cela suscite des plaintes et crée un climat de mécontentement.
Ce responsable du secteur éducatif à Burunga invite les parents à dénoncer aux services communaux en charge de l'éducation chaque fois qu'ils font face à des incompréhensions afin que des solutions durables et concertées puissent être trouvées.
Clovis Niyonkuru, parlons encore éducation. Le Burundi ne pourra atteindre son développement sans avoir de cadre compétent, selon le politologue Ferouz Zakari Niongere, dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro. Ce consultant indépendant vivant au Canada a déploré la diminution du niveau intellectuel jusqu'au niveau universitaire. Il propose la création d'une année pré-universitaire pour renforcer la capacité intellectuelle de ceux qui auront le droit d'entrer à l'enseignement supérieur. Suivi.
Si au Burundi, on avance avec 35%, on continue comme ça jusqu'à l'université, ce qui n'est pas une bonne chose. À l'université, les étudiants ne reçoivent pas les prêts et bourses comme il fallait. Soit ce n'est pas suffisant, soit ils ne reçoivent pas les prêts et bourses à temps. Alors, dans cette condition, on trouve des étudiants qui font en même temps les études et d'autres activités pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Alors ça, ce n'est pas la santé pour l'éducation du pays. Parce qu'on va voir des gens qui vont finir l'université, mais avec zéro dans tout ce qu'ils avaient appris. Et si on les embauche dans des institutions qui nécessitent une haute qualification, c'est sûr que cette personne ne sera jamais productive. Moi, je pense qu'il faut modifier. Très rapidement, les choses qu'on peut modifier, d'abord, on peut mettre encore une autre étape, une classe qu'on peut appeler pré-universitaire. Cette classe pré-universitaire qui pourrait peut-être venir combler les lacunes que l'élève a eues dans les écoles antérieures, par exemple sur 3 modules, on peut former l'élève sur tout ce qui est informatique, pour que l'élève soit capable d'utiliser l'ordinateur, d'utiliser l'Internet comme il faut. Deuxième module, il faut préparer l'élève à parler bien la langue d'enseignement, pour que cet élève soit capable de comprendre, de faire des recherches quand il va arriver à l'université. La troisième module, c'est méthodologie de recherche. Méthodologie de recherche, pourquoi? Parce qu'à l'université, tu ne fais pas de recherche, tu n'as rien. Parce qu'à l'université, on te donne les bases, le reste, c'est à toi d'aller chercher. Et souvent, les profs te demandent de faire des recherches. En ce moment-là, si on ajoute cette étape-là avant l'université, on est capable d'avoir des élèves, des étudiants de l'université qui sont bien formés.
Parlons transport à présent. L'Association des transporteurs du Burundi à Trabo demande aux autorités chargées de la sécurité d'intervenir contre des conducteurs de véhicules de transport en commun stationnant dans les parkings de la ville de Bujumbura, refusant pourtant de transporter des passagers alors qu'ils ont reçu du carburant. Lors d'une assemblée générale de cette association ce jeudi, le commissaire de police dans la ville de Bujumbura a reconnu ces faits, précisant que dans la plupart des cas, ils agissent sur ordre des propriétaires des véhicules. De son côté, la directrice des opérations à la société pétrolière du Burundi, Sopebo, affirme que ceux qui commettent ces infractions sont sanctionnées lorsqu'ils sont identifiés. Jean-Marie Vianney, Ngendakouman.
Lors de cette assemblée générale tenue ce jeudi par l'association Atrabou chargée de transport des personnes et des biens à l'intention de ses membres et des acteurs du secteur, le président de la dite association Bosco Minani a demandé à la police d'intervenir pour lutter contre le comportement de certains chauffeurs qui arrêtent le travail avant l'heure prévue.
Concernant ce qui se passe actuellement au niveau du transport, on remarque que certains chauffeurs arrêtent leur travail avant l'heure. Nous réitérons notre appel à l'endroit de la police de la ville de Bujumbura pour qu'elle nous aide. Quand ils sont au courant, ils interviennent. Mais souvent, on voit les mêmes véhicules revenir se positionner sur les parkings pour embarquer des passagers. Nous demandons que le travail ne dépendent pas uniquement de la présence des forces de l'ordre. Il ne faut pas que les chauffeurs attendent les opérations policières nocturnes pour se remettre au travail.
Associé colonel de police Mukoko Edouard, commissaire de police dans la ville de Bujumbura, a indiqué que ces pratiques sont souvent dictées par les propriétaires des véhicules.
Ces chauffeurs de bus dont vous parlez devraient effectivement être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas la réglementation. Mais plus souvent, ils sont influencés par les propriétaires des véhicules qui leur ordonnent d'arrêter le service avant l'air ou de cacher le véhicule dans leur domicile pour qu'ils n'assurent pas le transport des passagers.
Cette réalité est confirmée par Anne-Marie Kaneza, directrice des opérations à la société pétrolière du Burundi, Sopebu.
De 6h à 8h du matin et de 17h à 22h du soir, ce sont les heures où nous rencontrons le plus de difficultés avec les chauffeurs à cause de leur comportement consistant à arrêter le travail avant l'heure prévue. Les propriétaires de bus ont bel et bien envoyé leurs véhicules au service, sauf quelques-uns qui demandent aux chauffeurs de rentrer avec le bus dès 19h, tout en sachant que durant cette période, les passagers sont encore dans longues files au parking jusqu'à 22h, alors que l'objectif principal est d'assurer le transport des citoyens pour leur permettre de rentrer chez eux à temps.
Elle ajoute qu'une sanction sera appliquée pour toute personne prise en flagrant délit de ces pratiques. La directrice des opérations au Cédra Sopebu ajoute qu'en vue de lutter contre ce phénomène, Sopebu prévoit d'installer des caméras de surveillance pour suivre de près les véhicules et à l'issue du Kalbila au Cédra Sopebu.
Lors de cette assemblée générale, le secrétaire général de la Trabo a réagi à la décision prise par les anciennes communes rattachées à la mairie de Bujumbura d'imposer des frais de stationnement à hauteur de 1 500 francs burundais par bus de type Coastera et 2 000 francs par véhicule de type IAS. Selon Charles Nirameba, cette taxe devrait être uniquement prélevée la nuit sur des véhicules stationnant dans des parkings bien aménagés comme le stipule la réglementation. Il a également salué le léger mieux observé ces derniers jours dans la distribution de carburant pour les véhicules de transport en commun à Bujumbura. Pour clore cette édition, certains habitants de la commune Muyinga plaident pour la prolongation du délai de pavage devant les bâtiments qui touche donnant sur la route principale à traversant cette commune. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro à Muyinga expliquent que cette mesure prise au début de cette année exige plus de moyens, même si elle est bonne, et demande en outre de la patience quant à l'application des amendes prévues à l'encontre de ceux qui n'auront pas achevé ces travaux avant la fin de cette année. Suivez ce micro-baladeur.
Dès son annonce, nous l'avons chaleureusement accueilli car il s'agit de l'intérêt général. Nous remercions vivement notre administrateur qui nous apporte des innovations car là où la propriété manque, il n'y a pas de bonne santé. Cependant, certains entrepreneurs, dont des petits commerçants dont je fais partie, n'ont pas de parcelle tout près de cette route. Nous l'aurons donc. Le seul obstacle, c'est quand nos bailleurs ne parviennent pas à réaliser ce pavage à cause de l'étendue de sa propriété et des moyens conséquents. Par exemple, mon bailleur a 30 mètres à paver. Je ne le dis pas pour violer la mesure, mais plutôt pour demander un délai supplémentaire en vue de la mettre en œuvre convenablement en collaboration avec nos bailleurs pour certains.
Je suis un citoyen de Muyinga. Je pense qu'il faudrait accorder un délai supplémentaire aux propriétaires concernés par cette mesure de pavage. L'amende ne devrait être priorisée qu'après l'expiration du délai de prolongation.
Je présume que les gens n'ont pas de moyens suffisants ces derniers temps. Cette situation est aggravée par les besoins liés aux fêtes de fin d'année. J'estime que la prolongation du délai des jours, voire des mois, s'impose pour que les gens collectent des moyens pour réaliser ce pavage.
En résumé, nous demandons la prolongation de ce délai pour une bonne mise en œuvre de cette mesure. Sinon, nous saluons cette mesure d'intérêt général, mais si nos activités sont perturbées, ça impacte négativement tout le monde. Les taxes et impôts, la ration des ménages et tant d'autres sont affectés lorsque l'administration décide de fermer nos boutiques pour le non-respect de ce délai alors qu'il pouvait favoriser la population et l'État.
Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubimana qui assure la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir. Isanganiro.